Déconnectez-vous. Déconnectez-vous. C'est étonnant de commencer une prédication en disant déconnectez-vous, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous que c'est le titre d'un livre que j'ai lu récemment. Un sociologue qui parle des bienfaits et même de la nécessité d'apprendre à vivre sainement avec les nouvelles technologies qui peuvent nous envahir. Et l'auteur, qui est directeur de recherche à l'Institut Ipsos, décrit un mouvement actuel en faveur de la déconnexion qui émerge dans nos sociétés, avec des individus, figurez-vous, qui choisissent de ralentir le rythme. Le rythme infernal, je ne sais pas comment on peut l'écrire, infernal, dans lequel la société de loisirs, la société de surconsommation, la société hyper connectée les oriente. Et leur objectif, affirme-t-il, c'est de reprendre le contrôle de leur vie, de redevenir plus humain. C'est un sociologue qui écrit ça. Je ne sais pas si ça vous fait envie, un peu, passionnément, à la folie, pas du tout. Alors déconnectez-vous, pourquoi? Parce que Dieu prend soin de vous. Je ne sais pas, c'est l'été, c'était écrit tout à l'heure derrière moi, c'est bientôt l'été. Je ne sais pas comment vous vous situez à quelques jours de l'été officiel. Si vous êtes sur une échelle de 1 à 10 au niveau de la fatigue, sur 1, sur 10, sur moins 5, je sais pas. En tout cas, il semblerait que le repos soit une évidence d'après Dieu. Figurez-vous que des chercheurs découvrent cette importance de s'arrêter. Que dis-je? Cette nécessité de s'arrêter, d'arrêter la course. Eh bien, alors que les chercheurs le découvrent, la Bible l'annonce. Dieu l'annonce. Depuis un certain temps, je dirais même depuis un temps certain, en fait, ça fait juste 5 millénaires au moins que Dieu en parle. Et je vous invite à regarder votre Bible, à regarder ensemble quelques versets qu'on lit dans le livre d'Exode au chapitre 20. Exode, chapitre 20, et on va lire ensemble les versets 8 à 11. Exode, chapitre 20, tout de suite, ça vous fait penser à des tablettes. Alors, pas tout à fait les mêmes tablettes qu'aujourd'hui, comme quoi elles existaient déjà à l'époque. Moïse a reçu de la part de Dieu l'essentiel pour vivre l'essentiel. En deux tablettes, pour vivre le mieux possible, pour vivre le plus librement possible, en deux tablettes. Et je lis donc quelques extraits de ce chapitre 20 à partir du verset 8. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Je le disais, Dieu en parle depuis au moins 5 millénaires. Le respect du jour de repos. Selon vos traductions, vous aurez peut-être le jour de Shabbat. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais cet autre commandement est mentionné dans l'Écriture plus que tous les autres. Ce qui doit nous interpeller. Dans l'Ancien Testament, plus de 100 mentions de ce repos. En même temps que je dis ça, nous devons reconnaître que ce commandement, dans son application, n'est pas sans poser deux questions. Peut-être, à la différence des 9 autres commandements, celui-ci semble un petit peu plus déroutant, un peu plus controversé, peut-être. Pourquoi ? Faut-il interpréter ce fameux septième jour comme un jour exempt de tout travaux, voire de récréation profane, comme un jour où l'accent est mis avant tout sur le culte collectif et la cessation de toute activité, comme un jour mis à part pour un repos saint? D'ailleurs, ce repos ne concernait-il pas uniquement le peuple hébreu? Et pour les chrétiens que nous sommes, le dimanche est-il le sabbat chrétien? Ou simplement un jour de repos? Mais quelle forme de repos? De quoi parle-t-on? Il m'a été rapporté dans une église évangélique en Bourgogne que l'un des anciens de l'église se met au Shabbat du vendredi soir au dimanche matin. Donc pas de disponibilité pendant ce créneau-là, dans un moment où la communauté est souvent la plus disponible. Quelle différence entre le Shabbat juif et le jour du Seigneur chrétien? Dans le cas où nous voulons respecter ce quatrième commandement d'Exode 20, avons-nous le droit, le dimanche, d'acheter des viennoiseries à la boulangerie, de manger au resto pour fêter la fête des pères, par exemple? Il n'y a pas de métamessage. De faire ses courses en ligne ou en boutique? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être certains parmi vous ne tournent pas la pelouse le dimanche, et pas seulement pour pas déranger les voisins. Ils ne font pas le ménage le dimanche, ça nous arrange. Ou ne font pas les devoirs peut-être. C'est des vraies questions, même si ça peut nous faire sourire. Vous voyez que ce commandement n'est pas sans poser de questions pour essayer de les comprendre. Et c'est pourquoi j'aimerais proposer ce rappel important et précieux dans le contexte. C'est pas facile aujourd'hui de nous projeter, bien sûr, dans ce contexte qui date de quelques millénaires en arrière, dans lequel ont été transmises ces paroles, mais nous devons imaginer à cette époque, alors que Moïse et le peuple reçoivent les tablettes de pierre, devons nous rappeler que le rythme des saisons guidait l'économie vivrière. Économie vivrière, de quoi parle-t-on? L'économie vivrière est une agriculture essentiellement tournée vers l'autoconsommation et l'économie de subsistance, je vais traduire. La production, rarement excédentaire, n'est destinée ni à l'industrie agroalimentaire ni à l'exportation. Elle est en grande partie autoconsommée par les paysans et la population locale dans l'immédiat. Ça veut dire qu'on produit pour vivre, ou même survivre, mais sans réaliser d'excédent. On retrouve aujourd'hui cette forme d'agriculture particulièrement présente dans les pays les moins avancés, où elle demeure capitale et même vitale, puisqu'elle permet aux populations rurales, sans autres ressources, de se nourrir. Donc ces faibles rendements génèrent peu d'excédents et ne permettent pas, d'ailleurs, à ces populations de sortir de la pauvreté. Donc de par la force des choses dans une économie vivrière, la grande majorité des gens cherchaient quasiment, essentiellement, à assurer la survie pour la famille, pour le jour même, pour l'immédiat en tout cas. Et dans ce contexte, l'homme était facilement accaparé par des soucis et tracas alimentaires, professionnels, en lien avec le rythme des saisons, avec les aléas météorologiques dont il dépendait. Une récolte qui subissait la foudre ou le vol ne recevait pas de compensation financière de la part des assureurs. Avec cette quatrième parole d'Exode 20, le peuple de Dieu était appelé pour le jour du Shabbat à renverser ses priorités. Le peuple de Dieu pouvait tout à fait s'imaginer que cette loi n'était pas aberrante s'il avait à l'esprit l'épisode de la manne quotidienne. Souvenez-vous, Exode 16. C'est pas très loin, Exode 16, avant Exode 20. Et Dieu les avait préparés à recevoir pour chaque jour ce qui était nécessaire. Et à s'abstenir de chercher la manne le septième jour. Alors nous comprenons pourquoi un tel commandement est carrément révolutionnaire pour l'époque, voire choquant. Les traductions françaises au verset 8 donnent comme mot pour Shabbat également repos, jour du Shabbat ou bien jour de repos. Shabbat, c'est le mot hébreu pour cesser. Cesser. C'est donc le jour où l'on cesse de faire ce que l'on a fait. On s'arrête, on marque une pause par rapport à ce qui a été fait durant le reste de la semaine, durant les 6 derniers jours. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour, tu ne feras aucun travail ce jour-là. L'idée était de ne plus effectuer le travail qui était réalisé le reste de la semaine. C'était une rupture. Cesser. Ce jour-là, plus de labeur, plus de récolte, plus de commerce, et même de cuisine. Il paraît que tout s'arrêtait, complètement, ou presque. Alors ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il s'agit d'une loi étonnante. À l'époque, jusqu'alors, on travaillait 7 jours sur 7, chaque jour, et durant de longues heures. Une terre hostile, surtout dans ces pays chauds, pour gagner une maigre pitance sans pouvoir mettre de côté. Entre parenthèses, la gestion de Joseph en Égypte quelques siècles auparavant, suite au rêve du Pharaon annonçant 7 années d'abondance puis de disette, était d'une sagesse révolutionnaire, inspirée divinement. Du coup, encouragé par ce commandement, un peuple à céder son activité avait de quoi surprendre, d'étonner, questionner. What? Quel est ce Dieu? Qui est ce Dieu qui ordonne de se reposer, de cesser toute activité? Alors après avoir réalisé, si vous me permettez l'expression, un gros coup en Égypte, avec la délivrance de l'esclavage du pharaon égyptien, Dieu partage à son peuple 2 tablettes d'ordonnance dans l'intention d'orienter favorablement, librement, la nouvelle vie du peuple. Souvenons-nous que ces 10 commandements, on pourrait dire les 10 commandements de Dieu, les 10 paroles de Dieu, c'est la charte de maintien de la liberté que Dieu a imaginé pour son peuple. C'est la charte de liberté, du maintien de la liberté. Plus tard encore, Dieu instituera carrément plusieurs semaines de fêtes. Et ce, chaque année. Notre Dieu est un Dieu de fêtes. Notre Dieu est un Dieu de repos. Dans l'immédiat, Dieu pose comme étant fondamental pour son peuple de s'octroyer une journée de sabbat, de repos, de break, appelez-la comme vous voulez. Ce qui nous fait dire, il y a pire comme Dieu. Vous connaissez beaucoup de patrons qui obligent leurs ouvriers. Non, non, tu viens pas travailler, tu te reposes. Ah, mais je suis en bonne santé. Oui, et ben reste-y. Donc une révolution culturelle, mais pas seulement. Culturelle, mais révolution aussi spirituelle, profonde. Pourquoi spirituelle? Car respecter cette ordonnance divine impliquait un pas de foi, déjà à l'époque. Un pas de foi de géant. Il s'agissait de faire confiance au Dieu qu'il connaissait, au point de croire que Dieu savait parfaitement ce qu'il disait. Et ce n'était pas rien. Il s'agissait de faire confiance à ce Dieu qui pourvoit. Vous connaissez l'un de ses surnoms, Adonai Jireh, le Dieu qui pourvoit, Adonai Jireh. Au point de croire que Dieu allait accorder une vie meilleure en cessant l'activité professionnelle, en arrêtant le travail, plutôt qu'en le continuant. Et ceci, quelle que soit l'urgence de la tâche, quelle que soit la quantité de travail. Je pense que tout d'un coup, c'est pas qu'il y avait rien à faire le dimanche. Enfin, le septième jour. Et il me semble que ce commandement était contre-intuitif. Il fallait un pas de foi. Alors comment comprendre, si ce n'est que de dire que le fait de s'arrêter pour consacrer ce jour à Dieu, eh bien c'était une meilleure chose que le fait de travailler comme les autres jours. Je dis rien d'extraordinaire. Alors bien sûr, on pourrait se pencher sur la question du sabbat et de son évolution depuis les Juifs jusqu'au temps chrétien, mais je ne vais pas m'attarder ici pour expliquer comment nous sommes passés du samedi pour les Juifs au dimanche pour les chrétiens. Mais, avec Jésus, nous constatons que le jour de Shabbat, le jour de repos, n'était pas pour faire rien, comme les religieux de son époque le croyaient. Même si eux, ils faisaient pas rien, ils passaient leur temps à tendre des pièges à Jésus, on a l'impression, le jour de Shabbat. Mais Jésus, lui, le jour du Shabbat, il en a profité pour rencontrer des gens. Il en a profité pour guérir. C'est impressionnant le nombre de guérisons que Jésus a fait le jour du Shabbat. Donc en fait, Jésus saisissait le Shabbat comme une opportunité pour bénir. Quant à Paul, il explicitera dans sa lettre aux chrétiens de Rome qu'il est possible pour les chrétiens sur ce sujet de voir les choses de différentes manières. Par exemple, dans son chapitre 14:5. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. On a l'impression que ça, il nous aide pas beaucoup. Mais il écrira aussi aux chrétiens de la ville de Colosse, chapitre 2, verset 16. Colossiens 2, 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois, ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Au passage, nous sommes bien contents d'avoir la possibilité de profiter, au besoin, le dimanche, du service des urgences, par exemple. Même le dimanche. Ils sont bien contents qu'il y ait des médecins de garde, des infirmières, des pompiers, des sages-femmes, des boulangers, des pasteurs. Vous n'êtes pas contents qu'Élie travaille le dimanche? Alors heureusement que Jésus et Paul explicitent la liberté que nous pouvons exercer, même le dimanche, même le jour du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il nous faut retenir ici? Ce qui nous faut retenir, c'est que rien n'est aussi reposant que de faire confiance à Dieu. Tu es fatigué, tu cherches des tutos? Fais confiance à Dieu. Écoute-le. C'est ça que je me dis à moi-même. Je parle à mon âme. Je veux bénir l'Éternel, mon âme. Je me parle à mon âme, comme David le fait. Tu veux trouver le repos? Écoute Dieu. Le fait de s'arrêter pour consacrer ce jour à Dieu, c'est le pari, le pas de foi, que c'est meilleur, c'est mieux que le fait de travailler comme les autres jours. Un père de l'Église dit les choses ainsi, et ça me semble être très bien résumé. Les chrétiens n'ont plus à observer le sabbat tel que le peuple juif avait à le faire du vendredi nuit au samedi nuit, mais ils orientent leur vie sur le jour du Seigneur. Jour qui rappelle que leur vie a été régénérée par la vie offerte en Jésus-Christ, suite au pont que Dieu a bâti en Jésus-Christ, entre lui et nous. Voilà le jour pic de la semaine, le pic de notre semaine. Il est là. En l'honneur de Dieu, les chrétiens cessent ce qu'ils ont fait les autres jours pour marquer le coup, pour montrer à Dieu, je te fais confiance. Oui, j'ai une petite liste de choses qui m'attendent, et je suis même tendance des fois à la compléter le dimanche matin. Pardon, j'ai beaucoup de choses à faire, mais je choisis de te faire confiance. Je veux mettre ce jour à part. Tu es mon rédempteur. Tu es mon roi. Tu me demandes quelque chose. Aide-moi à le faire. Que comprenons-nous encore avec ce commandement? Eh bien, que le repos est nécessaire. Début 2023, la première ministre néo-zélandaise a posé sa démission après 5 ans de ministère, apparemment fructueux, en reconnaissant, courageusement je crois, que le réservoir était à sec. Il arrive que notre corps réclame ce repos, que celui-ci ne suive plus la cadence. Peut-être certains expriment ce besoin de repos, on est quand même à la fin d'une saison. Et il est vrai que nous pouvons aussi ne pas écouter cet état. Un jour, mon docteur me dit, on est en septembre, ça fait juste 1 mois et demi que j'ai repris, si vous ne vous arrêtez pas de vous-même, vous allez bientôt vous arrêter. J'avais l'impression qu'il y avait un message à entendre. Du coup, j'ai continué. Non, pardon. J'ai ralenti. J'ai pas pris les 5 jours d'arrêt, mais j'ai ralenti. Je connais 2 personnes, personnellement, qui ont été arrêtées après avoir été au taquet pendant des années et des années et des années, à ne jamais s'arrêter. Elles ont été arrêtées, leur corps ne suivant plus, et elles sont tombées malades. Mais que nous fassions ou pas, la sourde oreille à nos limites, à nos limites physiques, psychiques ou autres, il n'empêche, le repos est une nécessité. Et avec cette ordonnance, l'idée était que le peuple, dans son entièreté, jouisse de ce sabbat. Parents, enfants, serviteurs, étrangers, et même les ordinateurs, c'est-à-dire le bétail de l'époque, c'était les ordinateurs de l'époque. L'outil de travail au sein de cette société agricole, on arrête tout là, pas que ça surchauffe. Et en plus de ça, c'était la première fois qu'une loi reconnaissait le droit des faibles, des vulnérables, des fragilisés de la société, puisque c'était pour tout le monde. C'était pour tout le monde. Vous voyez ce Dieu? Qu'il est bon de comprendre que nous sommes des êtres limités, des êtres infinis, pardon, des êtres finis. C'est le Dieu infini qui nous le rappelle. Donc un repos nécessaire, un repos pour suivre l'exemple de Dieu lui-même. En se reposant le 7e jour, l'Israélite se rappelait que Dieu en avait fait autant. Et Dieu n'attendait pas de son peuple qu'il se prive de ce dont lui-même ne s'était pas privé. Je lis au verset 11, à nouveau, « 46 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. » Mais le 7e jour, il s'est reposé. Cette référence faisait faire au peuple un retour en arrière. à ce début de l'histoire de l'humanité. Dieu vient de créer en 6 jours, je ne vais pas m'étaler sur la durée des jours, des périodes de temps, c'est pas le sujet de ce matin, mais après le 6e jour, voilà ce qui est rapporté dans la Genèse, chapitre 2, le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Alors bien entendu, on connaît Dieu au moins un peu, au point de nous dire que c'est pas parce qu'il était fatigué qu'il s'est reposé. C'est pas parce qu'il était las. C'est pas parce qu'il tout d'un coup il manquait d'énergie ou de créativité. N'est-ce pas? Plutôt, semble-t-il, c'était pour apprécier ce qu'il avait créé en 6 jours. Pour regarder en arrière, s'arrêter, regarder en arrière. Et peut-être aussi pour nous laisser un exemple. Il nous montre un exemple parlant. Si Dieu lui-même choisit de cesser son activité après les 6 jours, à combien plus forte raison cet arrêt a du sens pour nous, qui ne possédons ni sa force, ni sa puissance, ni son endurance, ni ses capacités. Écouter l'ordonnance divine, suivre l'exemple de Dieu, c'était affirmer la confiance et l'obéissance en ce Dieu créateur de l'univers. Hier, nous étions 15 hommes à randonner, qui est une idée intéressante, je trouve, pour un jour du Seigneur, que nous avons eu hier. Et je demande à un frère, pendant la balade, « Qu'est-ce qui t'a encouragé cette année ?» Et Rémi de me répondre, « J'ai orienté mon année pour trouver le repos en Dieu. » Moi, j'ai trouvé ça beau, hein, magnifique. Alors, certains estiment que ce commandement en 4e s'interprète pour nous aujourd'hui de la manière suivante. Il ne s'agit pas, selon eux, de repos physique, mais du repos intérieur accessible en Jésus. Personnellement, je ne suis pas convaincu qu'il s'agisse uniquement du repos acquis par le salut de Christ. Que comprendre encore de ce repos? Eh bien que nous pouvons faire de ce repos une journée pour faire de quoi mettre Dieu à l'honneur. Le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, dit le verset 10. Il est consacré à l'Éternel, ton Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas consacré à moi. Il est consacré à l'Éternel. Tu ne feras aucun travail ce jour-là. L'Éternel a béni le jour du Shabbat et il en fait un jour qui lui est consacré, qui n'est pas consacré à moi-même. Consacré, ça fait appel à quoi? À sanctifier, c'est-à-dire à mettre à part, dédié, séparé, honoré comme sacré, observé comme saint. C'est un jour spécial, c'est un jour, un pic dans ma semaine, mais pas un pic pour moi. Même si à chaque fois que j'obéis, je suis toujours au bénéfice de ce que Dieu a prévu pour moi. Le jour du Seigneur, c'est pas un jour ordinaire, puisqu'il est appelé le jour du Seigneur. Et qu'accessoirement, ce soit pas moi, c'est pas moi le Seigneur. Je ne suis plus Seigneur de ma vie depuis que Christ est devenu le Seigneur de ma vie. C'est plus moi qui suis le Seigneur de ma vie. Je ne vis plus pour mon royaume. Quelqu'un a fait cette belle prière tout à l'heure de rappeler qu'elle avait changé de royaume. Je ne suis plus vivant pour mon royaume. Je vis pour le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Donc ça change tout. C'est un jour spécialement dédié à Dieu. Alors bien sûr que le peuple de Dieu était appelé à dédier son travail de la semaine à Dieu. Bien entendu, comme nous sommes invités chacun à vivre chaque moment pour Dieu. Donc les 6 jours aussi. Mais ce jour-là, c'était une journée spéciale par excellence. Le jour J de la semaine. Je l'ai déjà dit ça. Ça rentre mieux quand on répète les choses, il paraît. Je disais tout à l'heure que le fidèle du peuple de Dieu était appelé à renverser ses priorités. Eh bien, même à l'époque, Il y avait des récalcitrants à cette loi, par manque de confiance, par méconnaissance de Dieu, par désobéissance, par soif d'intérêt personnel, j'en sais rien. Le Shabbat était imaginé par Dieu pour rappeler à son peuple que ce dernier n'avait pas à compter sur lui seul, entièrement. Le peuple n'avait pas à compter sur lui seul. Le peuple n'avait pas à compter sur lui en tant que centre. Il n'était pas le centre de l'existence. C'était pas le peuple qui était le centre de l'existence. C'était Dieu. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Dans une société occidentale comme la nôtre qui peut aisément teinter sur nous, nous sommes défiés à ne pas oublier, si nous sommes enfants de Dieu, que le plus important, ce n'est pas moi-même. Le plus important, c'est pas mon agenda. Le plus important, c'est pas tout ce que je peux faire. Puisque j'ai été racheté par Dieu, et donc, si nous avons été rachetés par Dieu, c'est que nous lui appartenons. Nous sommes à lui. Et c'est la plus belle chose qui soit, d'appartenir à Dieu, même si des fois, on le voit pas comme ça. Alors la question est, comment consacrer un jour pour le Seigneur ? Il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose, dit l'Ecclésiaste. Les premiers chrétiens travaillaient 6 jours. Pas 5, pas 35 heures, ni 38, ni 42, mais 6 jours. En se réunissant le premier jour de la semaine, ils mettaient à part ensemble un moment pour commémorer la résurrection du Christ, ce qui est une excellente habitude. Et pour ceux d'entre nous qui ne travaillons pas 6 jours, cela devrait être moins difficile que pour nos ancêtres, qui vivaient, je le rappelle, dans une économie vivrière. Et pourtant, il nous faut reconnaître que nous sommes défiés. Je suis prêt à faire le pari que la plupart d'entre nous, si ce n'est pas chacun d'entre nous, sommes défiés par rapport à ça. Et nous avons ici une opportunité, grâce à ce commandement, pour choisir d'interrompre le flot incessant et de nous dégager des pressions et tracas professionnels, de nous dégager des sollicitations à tout va, des connexions multiples et avariées, pas toutes indispensables. Réseaux sociaux, séries, écrans, est-ce qu'ils sont dédiés à Dieu aussi le dimanche ? Déconnectez-vous. Je parlais tout à l'heure de ce livre et de ce mouvement en cours pour nous aider à, je cite un peu des éléments du livre, nous dégager des flux d'informations continues. Ça vous parle ? Ah, mais je peux pas commencer ma journée sans regarder Google Actualité quand même. Ah bon ? Alors si tu peux pas, il faut que ton église prie pour toi. Oui, mais on est tous dans ce cas-là. Ah, eh bien, on va tous prier ensemble. Peut-être il faut qu'on jeûne pour ça. Qu'on fasse quelque chose. Dans la liste, il y a aussi arrêter de nous faire diriger littéralement par les outils technologiques. C'est-à-dire que c'est eux qui nous maîtrisent. Et les retirer du trône sur lequel nous les plaçons, y compris pour notre passe-temps. Enlever le fil à la patte, je cite, hein, pour rebâtir du vrai lien social sans nous laisser envahir. J'ai 2 téléphones, hein, je suis pas en train de faire une critique contre le smartphone, j'en ai 2. Dont un ici qui me sert bien pour m'assurer que je suis dans le clou. Est-ce que nous sommes à préférer les relations vraies à nos écrans? Les relations vraies à nos familles? Les relations vraies à l'église? À nos voisins? Bref, à revenir aux choses saines, réelles et vitales, et retrouver un peu d'oxygène. C'est ce livre qui pose ces questions. Alors du coup, j'en ai quelques autres et je me suis permis de compléter. Bien sûr, ce sont des questions pour nous aider à des réajustements. Bien sûr, ce sont des questions que je me pose à moi-même. Donc elles ne sont pas plus pour vous que pour moi. Mais j'aime beaucoup quand je prêche, prêcher pour moi. Nous avons une part à jouer. Nous avons notre part à jouer. Et je pense que ces questions peuvent nous aider. Je le souhaite en tout cas. Est-ce que ma semaine est marquée par un jour du Seigneur, par un jour J, comme Jésus? Est-ce que nous avons identifié un jour consacré au Seigneur spécialement? qui vient cycliquement, régulièrement, tous les 7 jours par exemple. Est-ce que le jour du Seigneur est différent pour moi que pour mes voisins athées? Et même quand je suis en vacances, est-ce que je suis en vacances de jour J? On se posera la question dans quelques semaines. Est-ce que, comme les premiers chrétiens, nous nous disons que le pic de notre semaine est le jour du Seigneur? Est-ce que nous nous rappelons pour qui est le culte du dimanche matin? Est-ce que le culte du dimanche matin, il est pour moi? Premièrement, pas. Oh là là, j'aime pas comment c'était là. C'est quoi ces anciens qui interviennent comme ça? C'est pas comme ça qu'on prêche. Et puis la louange là. En fait, la louange, elle est pas pour moi en premier. Elle est pour Dieu. Donc si jamais je suis chagriné quand ça se passe pas tout à fait comme je veux le dimanche matin, il faut que je me rappelle que le culte, il est pas pour moi en premier. Je vais être au bénéfice de plein de choses dans ce culte. C'est formidable. Mais le culte, il est pour Dieu en premier. Est-ce que nous orientons le jour du Seigneur pour qu'il soit un jour pour le Seigneur, je l'ai déjà dit, et non pour charger cette journée de tout ce que l'on n'a pas réussi à faire dans la semaine? Notre Dieu n'est pas contre le loisir, mais en même temps, est-ce que les activités récréatives de distraction et de plaisir qui sont carrément illimité aujourd'hui, est-ce que nous pouvons les glisser ce jour-là en nous disant avec assurance elles vont apaiser et restaurer notre âme? Est-ce que ce que je mets le dimanche, les écrans, la part d'écran, va ordonner et apaiser ma vie intérieure? À propos d'écran, n'y aurait-il pas un jeûne à envisager pour marquer la rupture avec le reste de la semaine? Un jeûne de réseaux sociaux, un jeûne d'ordinateur, un jeûne de courriel, peut-être même un jeûne de capitalisme, un jeûne de matérialisme, un jeûne d'Amazon. Tout cela en vue de quelque chose de plus nourrissant pour notre cœur profond. Un jeûne qui démontrerait au moins 2 choses. La première, c'est que je suis réellement libre. La seconde, c'est que Jésus, Dieu, est vraiment mon Dieu. Est-ce que nous n'aurions pas besoin de profiter encore mieux du jour du Seigneur? Peut-être, parmi vous, vous êtes déjà très satisfait de votre manière de gérer ce jour, de vivre ce jour. Et c'est génial. Est-ce que nous ne voulons pas profiter de ce jour pour nous aligner à nouveau sur lui? Peut-être nous avons beaucoup couru, pour nous, toute la semaine. Est-ce que nous ne voulons pas rectifier un peu la trajectoire en revenant à l'essentiel? Est-ce que nous ne voulons pas profiter davantage de ce jour du Seigneur pour nous décentrer de nous-mêmes, afin de bénir davantage les autres, les frères et sœurs, par exemple? Rien ne remplacera les relations humaines réelles. Rien ne remplacera la bienveillance des relations réelles. Mettre du temps à part pour réfléchir sur notre semaine écoulée. Je pense qu'il y a un défi pour nous de mettre du temps à part. Savourer telle chose, corriger le tir, prendre le temps de regarder. Dieu s'est arrêté à regarder, il a vu que c'était bon. Il y a peut-être quelque chose pour moi, de m'arrêter, de regarder, de voir ce qui était bon et de me dire, génial. Ou de me dire, là j'ai manqué un truc. Ok? Eh bien, je demande pardon à Dieu et je repars. Il me fait repartir. Mais si je m'arrête pas, si j'ose pas m'arrêter, si je ne veux pas m'arrêter. Peut-être c'est l'occasion de se poser la question aussi, est-ce que cette semaine, j'ai aimé pour de vrai mon conjoint? Est-ce que j'ai aimé pour de vrai mes enfants? Bref, je vais conclure. Souviens-toi de faire du jour de repos un jour saint. Peut-être qu'il y a un changement d'habitude plein de promesses qui nous attend. Que Dieu nous garde de nous glorifier auprès des autres quand nous arrêtons pas de répéter « Ah, mais je suis toujours au taquet, moi, tu sais. Mais moi, je m'arrête jamais. » Parce qu'en fait, d'une part, c'est pure folie de ne jamais s'arrêter. Et en plus, c'est un contre-exemple. Et en plus, ça glorifie pas Dieu, au contraire. Donc, je dois parler pour moi en disant ça. Le Nouveau Testament n'invite pas les chrétiens à s'acharner, à observer strictement le septième jour tel que les religieux juifs semblaient le croire. Toutefois, ne doutons pas que les principes fondamentaux du repos du sabbat demeurent, car ils ont été associés au jour du Seigneur. Et si avec l'avènement de Christ, toute observation superstitieuse telle que les religieux juifs pouvaient le vivre, doit être totalement rejetée par les chrétiens, l'importance d'observer le jour du Seigneur comme le jour J, comme le jour Jésus, eh bien cette importance demeure. Nous voulons nous rappeler que rien n'est aussi reposant que de faire confiance à Dieu. Nous voulons nous rappeler que le fait de s'arrêter pour consacrer ce jour à Dieu est meilleur que tout ce que nous pouvons imaginer. Je vais prier. Père éternel, aie pitié de nous. Aie pitié de nous quand nous mettons de côté des paroles de vie que tu nous adresses, mais que nous voulons mettre de côté. Donne-nous le bon sens pour revenir sur cette attitude et te faire confiance. Tu as imaginé le meilleur pour nous, pour ton peuple. Le maintien de la liberté qui passe par cette journée J. Ouvre nos cœurs à ce que tu veux nous dire à chacun d'entre nous. Père éternel, je te prie pour chacun, pour ton église ici à L'Oriole. Béni sois-tu dans le cœur de chacun. Parle à chacun. Et merci, merci, merci d'être notre repos, Jésus. Amen.